L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Passion intérieure. Scénario original de Julien Jean-Pierre. Mise en scène, production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Adouci, effrité par le temps, il me semble que le lieu m'appartient. La porte principale est ouverte, les deux battants. On voit le jardin intérieur. Après le passage, à droite se trouvent les salons pour recevoir les visiteurs et les WC. Un homme est devant la porte et surveille un peu la sortie des élèves. Ils sont peu, nombreux et sortent calmement, sans cri ou geste. Ils sont habillés modernes, mais avec un rien de sévère, et ont une distinction que les autres n'ont pas. Je regarde bien la façade. Je la croyais plus grosse, plus triste, mais non, elle est beige. La rue est légèrement en pente. Il y a en face une école ou quelque chose de militaire avec, sur son devant, un petit jardin. Sur le même trottoir, près de l'entrée du lycée, un arrêt de bus. Le long de ce mur, il me trouve derrière le Panthéon. Va vers le devant, il se trouve une place. Et sur le côté, une grande école et une église. Je trouve cet endroit très beau, bien proportionné. Un côté grandiose, mais à l'échelle humaine, et avec une belle architecture. La façade du lycée ne dénature pas derrière le Panthéon. Puis je longe le mur du lycée, me trouve devant la porte du petit lycée Henri IV, et tourne en arrière une rue populaire avec des petits commerçants et une piscine. Il y a un portail qui donne sur la cour arrière du lycée. Retourne seul devant l'entrée du lycée. Réfléchis à savoir où j'étais la dernière fois où je suis venu. Je me trouvais sur le trottoir d'en face, à l'entrée de la rue. J'y vais. J'essaie de me souvenir. Aujourd'hui, il fait doux, soleil. L'endroit est charmant. Un peu ce genre de décor que j'aime. Hors du monde et du temps. La lumière éclaire bien ces pierres beiges, ces façades élégantes. Et le lycée aussi fait bien. Il y a 33 ou 32 ans, ce n'était pas la même chose. J'étais en février, début février. Un lundi, il pleuvait, gris, triste. Je trouvais le quartier détestable et triste à en mourir. J'avais 17 ans, le corps gros, et savais que ça allait mal finir. J'avais fait une bêtise. Et je savais aussi que si je ne faisais pas, j'en aurais été malade. D'ailleurs, cela faisait des mois que j'étais malade. Malade de la vie que je menais, malade de trop de rêves, malade d'un amour impossible. Depuis quelques semaines, j'avais préparé mon départ. Un départ sans dire au revoir et que je voulais, quoi qu'il arrive, sans retour. Lundi matin, j'étais levée comme pour aller travailler et avais pris dans le cartable de ma sœur l'argent de la cantine de la semaine. Avec l'argent que j'avais pris par-ci par-là, cela suffirait pour le train. Mais aurais-je assez pour le billet de retour? Je ne m'en souciais plus. Je suis donc partie avec mon cartable et un peu d'argent, avec une sensation étrange. Quelque chose me disait que c'était perdu, que ça allait être une catastrophe. Si j'avais cette pensée, j'aurais pu, en sortant de l'immeuble, tourner à droite et aller à mon travail. Mais non. Je me suis dit, allons-y, les dés sont jetés. Et si je n'y fais pas, j'en serai malade. Donc j'ai tourné à gauche, direction Perrache. Le jour n'était pas encore levé et il pleuvait. C'était donc triste. Je longeais l'avenue Berthelot pour aller gare de Perrache. Mes parents habitaient au carrefour de la route de Vienne et de l'avenue Berthelot, en face des fermetures Ponctilles. Il pleuvait et le trajet est triste, triste. Enfin, j'arrive devant la gare de Perrache. La gare avant l'échangeur. Il y a du monde dans le hall de la gare et il faut faire la queue pour acheter un billet. Un billet pour Paris, s'il vous plaît.
Première ou deuxième classe?
Deuxième. Je ne sais pas combien ça coûte. Il me donne un prix. Je paye et me dit le numéro de quai. Je suis sur le quai en me disant toujours que c'est stupide, idiot ce que je fais, que je vais à la catastrophe. Je fais composter mon billet par un agent de la SNCF pour aller au quai. Il y a foule. Enfin, le train arrive, tout noir. J'entre dans un compartiment de deuxième classe. Les wagons sont divisés en compartiments fermés pour 6 personnes. Je m'assois dans un coin et ne bouge pas. Je suis coincé entre les voyageurs. Il fait humide, ça sent mauvais. Le train est enfin parti. Le voyage est long, 5 heures, avec de nombreux arrêts. Il pleut toujours et on est serré les uns contre les autres. Le paysage est monotone, triste. Je ne pense à rien et vers mon destin. Gare de Lyon, en début d'après-midi. Enfin Paris. Il pleut toujours. Et d'un triste, à en mourir. Je sors de la gare. Aller où? Que faire? Je sais, c'est que je dois me rendre au lycée Henri IV, mais où comment. Je demande à une passante, elle me dit de prendre le car numéro, je ne me souviens plus. Je prends ce car.
Au revoir François, merci.
Je prends le car. Et il roule vite. Le temps est toujours aussi triste et lugubre. Je regarde les rues de Paris, défiler sans joie. Je sens que ça va mal se passer.
C'est un peu très facile.
Je peux pas, non ?
Ah, c'est un peu.
Celui qui m'a donné le ticket me dit où descendre. Une fois descendu, je ne fais pas attention au Panthéon et autres. Il fait triste. Je trouve l'endroit triste, même un peu lugubre. Je demande où je trouve ce fameux lycée. Je n'ai plus envie. J'ai plus envie d'y aller. Et puisque je suis là et que les dés sont jetés, on me dit où il est. Rue étroite, grand mur gris, rue pavée. Lui. Je me mets devant l'entrée, sur le trottoir d'en face. Les élèves entrent et sortent. Ils sont nombreux. Je reste là, à les regarder. Mon observation, pendant un temps, me fait oublier que ce que je suis venu faire et le désespoir où je suis. J'entends deux jeunes filles. L'une qui dit « On a toujours besoin de petits pois chez soi, j'adore cette publicité. » Et elle rit toutes deux. Ce qu'elle veut me dire me ramène à la réalité. Vrai. Mais pas mes rêves. Où je suis en train, où ce que je suis en train de faire. Mais la vie, chez mes parents, la télévision et tout. Toutes les choses tristes, quoi. Quotidiennes. Celles qui m'ont fait faire, encore une fois, une connerie. Le temps passe et je dis que si je ne me renseigne pas, je risquerai de ne pas savoir si la personne est déjà partie. On ne sait pas. Où passe-t-elle d'ailleurs pour sortir ? C'est pas facile de se renseigner, surtout pour moi. Je suis renfermé et qui ne cherche pas des contacts avec les autres. Mes rêves, c'est mieux. De jeunes gens sortent du lycée. Je fais quelques pas pour leur parler. Pardonnez-moi, est-ce que est sorti un des jeunes garçons, son copain. Tu connais, toi? Oui, tu sais, la personne qui... Je ne sais pas, il faudra demander. Merci. Demander. Je n'ose pas. Comment faire? J'ai fait tout ça pour rien. La personne est peut-être partie. Ou elle est encore là. Je piétine. Tant pis. Je vais demander. C'est sûrement une connerie. J'entre dans le petit passage. Un homme s'approche de moi. Vous désirez, monsieur ? J'ai honte à cause de ce que je suis, de mes vêtements, de mon physique. Je veux parler à élève. Tant pis, la phrase est dite. Veuillez me suivre, monsieur. Il me mène à droite.
Il ouvre une porte vitrée. Une autre porte. C'est un grand salon avec des chaises, fauteuils, table basse, velours rouge, d'une très grande élégance, style Louis XV, je crois. L'homme me fait asseoir.
Un peu plus loin, parle à voix basse des gens qui semblent être des parents et des professeurs. Un homme vient vers moi. Vous désirez ? Je viens voir élève. L'homme s'éloigne. Je sais que je suis perdu. Que je me suis mis moi-même dans un piège, que je ne sortirai pas libre d'ici. J'ai envie de pisser. Un autre homme vient vers moi. Vous désirez ? Je me parlais. Élève. Quel élève, monsieur ? Je lui dis timidement. Je voulais bien attendre, monsieur. Et il s'éloigne. J'attends. Je pourrais m'en aller. Il en est encore temps. Mais non, je reste jusqu'au bout, comme un imbécile ou un suicidaire. Arrive avec un autre homme, un gros, fort, à costume gris foncé, sûr de lui, d'être dans son droit.
Ils s'assoient tous les deux, l'un face de l'autre.
L'homme sûr de lui, je suis le père de... Qu'est-ce que vous lui voulez ? Je le trouve laid, je le déteste. Rien ? Je voulais lui parler comme ça ? Vous la laissez ? Connaissez ? Elle vous connaît ? Non, pas ? Il faut la laisser en paix. Ne pas l'ennuyer. Lui foutre la paix. Vous avez compris ? Oui ? Qu'est-ce que vous lui voulez au juste ? Rien, la voir, c'est tout. Elle ne vous connaît pas, vous allez lui foutre la paix. Vous allez lui foutre la paix, vous avez compris ? Vous venez d'où ? De Lyon. Et vous venez de Lyon comme ça ? Oui. Il regarde l'autre personne et lui dit : appelez la police, il n'est pas normal. Mais je n'ai rien fait. Tout s'effondre. Mais je ne ressens rien, car je le savais, et je ne ressens plus rien. pour la personne que j'aimais. L'homme se retire. Et je reste avec le père. J'ai rien fait de mal. Ne réponds pas. Ce salaud, si sûr de lui. Sûr de lui. Sûr de son droit. Tellement sûr de son droit. L'autre revient. Oui, l'autre revient enfin. Comme ça, je reste pas seul avec ce salaud. Et dit qu'ils vont venir. J'ai envie de pisser. Je le lui dis.
L'autre me mène aux urinoirs. J'en profite pour prendre des comprimés que j'ai amenés à tout hasard. Je vais en finir. Après avoir pissé, j'ai avalé mes comprimés. On me ramène. Je me rassois. La porte s'ouvre. C'est des policiers armés. Je ne savais pas qu'il fallait autant de personnes pour m'arrêter. Ils viennent vers moi. Les deux hommes se lèvent. Le père dit, c'est cette personne, nous ne savons pas qui elle est, elle est venue voir un de mes enfants. Les policiers s'approchent de moi. Je me lève. Je leur dis que je n'ai rien fait. On me met des menottes. Je leur dis, pas la peine, je me sauverai pas. Ils ne disent rien.
Moi, je laisse faire. C'est fini, tout est fini. Mon histoire d'amour est finie d'un coup. Je ne sens rien. Il ne me reste rien. Les policiers et moi, nous quittons le lycée. Toujours. Il fait un temps d'un triste. On fait entrer dans une voiture de police. Le père dit, je vous suis. et nous roulons. Un flic regarde derrière et dit: t'as vu la voiture de sport qu'il a, le père? La voiture s'est arrêtée. Nous sortons de voiture pour entrer dans le commissariat. Un flic dit: c'est pour ce jeune homme qui est venu au lycée Henri IV. On lui dit: lycée Henri IV, c'est pas celui-là de commissariat, c'est rue. Et on me ramène. Il pleut toujours, c'est toujours triste. Quelle tristesse. Enfin, on m'amène à un nouveau commissariat. Le flic dit à un autre: on vient pour ce jeune homme qui est venu au lycée Henri IV. Il semble un peu dérangé. Le commissaire demande: qui es-tu? Je donne mon nom, adresse. Je la donne aussi. Vous avez fait une fugue? Je lui dis oui. Je tremble, j'ai des vertiges et la bouche amère. On me dit: papier. Je les lui donne. Il regarde dedans. Il y a des photos de la personne. Je m'en moque. Je ne sais plus. Tout est fini. Il peut bien faire ce qu'il veut. Il peut bien faire tout ce qu'il veut de tout ça. C'est fini. Bien fini. L'homme monte. Il peut bien faire tout ce qu'il veut de tout ça. C'est fini. Bien fini. L'homme montre au père les photographies. J'ai plus en plus la tête qui tourne. Le commissaire me dit: ça ne va pas? C'est les comprimés. Ce salaud, il me dit: vous avez voulu vous suicider? Oui. Allez vous asseoir. Il n'a même pas cherché à appeler un médecin. On fait asseoir sur un banc. J'ai de plus en plus sommeil. Le temps passe. C'est triste. C'est sale. Je ne sais plus. Puis, le calme. On semble m'oublier. On va, on vient. Prendre pour me mener dans une cellule.
On fait allonger sur un banc de bois. Je m'allonge. Je m'en fous.
Je ne dors pas. J'ai l'impression que ma vie s'en va. Je ne sens même plus mes membres. J'ai la tête vide. C'est tout aussi bien comme ça. Je savais que ça allait mal tourner. Thank you. puis, le lendemain,
ou plus tard, je ne sais pas. Enfin, soit sur un banc près d'une porte.
J'entends d'une pièce le père dire « N'est pas normal, c'est pas le seul, lui a réussi. » Avant de tourner le film, on l'a mené voir un médecin et on m'a dit qu'il n'y avait rien à craindre. Je suis peut-être pas normal, espèce de con. Mais toi, qu'est-ce que tu es laid et dire qu'elle risque de ressembler au père. Et puis, je me fous de tout. Tout est bien fini. Ma vie aussi est finie. J'en ai rien à foutre. Ils pourront bien faire ce qu'ils voudront de moi. Je m'en fous. Paris non plus, je ne veux plus cette ville. Je ne veux plus rien. Tout est fini. Je ne parle pas, on ne me parle pas, on m'amène dans un car pour un commissariat, je ne sais plus. Je suis comme un légume qui ne ni pensait, qui ne réagit pas. Un homme habillé, on dirait en garde républicain, bien propre, joli garçon, stylé. Il a le costume et la veste bien prises, la casquette bien. Il est jeune, avec une fine petite moustache. Je suis dans un dédale de couloir, je ne sais pas pourquoi, avec lui je me sens pas humilié. Il a des gants blancs et tout. Tout en marchant, il me demande ce que j'ai fait, mais d'une façon gentille. Je lui dis « rien ». Il n'insiste pas. Je lui demande « Vous me menez où ?» J'ai le juge. Je m'en fous. Tout est fini.
Il ouvre une porte. C'est un couloir avec des bancs en bois pour attendre. Il frappe à une porte et me fait entrer. Dans une pièce minuscule où se trouve un gros homme assis.
Il ne me regarde même pas, pose des questions sur mon identité, me demande pourquoi je suis parti, parce que je voulais voir une personne. Toujours en ne me regardant pas, il me dit « Bien, ça va pour cette fois, je vais vous rendre à vos parents. » J'aurais dû lui dire « Non, lui hurler que je ne voulais surtout pas, que je préférais la prison. » Oui, c'est comme ça. Mais je n'ai rien dit. J'étais résigné. Et puis la tête vide, vide. Dans une voiture pour me mener dans une maison, genre maison d'enfants. maison d'enfant ou prison, je m'en foutais. On m'a mené dans une cour, genre cour d'école, où deux jeunes de tout âge jouaient ou parlaient. Je suis assis sur des marches et j'ai regardé. Tout d'un coup, peut-être à cause de l'ambiance que je connaissais bien, ambiance d'école, de jeunes, je me suis senti mieux et ai oublié tous mes ennuis. J'avais l'impression d'avoir toujours été là et que j'y resterais toujours. C'était mon univers. Le ciel était toujours gris, les rues, le noir des murs, vieux et triste, mais d'une tristesse et d'une atmosphère que je connaissais bien, celle de l'école, de ces vieux établissements qui ont une âme parce que vieillis par le temps, par des générations et des générations de jeunes. Puis, après la récréation, une cloche a retenti, je crois une vraie cloche. On nous a menés dans une cantine. Il y avait des tables avec des couverts, tables en formica et bois, bancs de bois. Il y avait un téléviseur aussi dans la pièce. On me fait asseoir, je ne dis rien, ne vois rien, intimidé par les autres, je mange. Après, il y a eu la veillée, télé pour les plus anciens, qu'une chaîne noire et blanc, et comme c'était mardi, la dramatique interdit aux enfants, que l'on regardait tout de même, avec le carré blanc, qui était un vrai carré et pas un rectangle, indiquait que c'était à déconseiller, mais si les enfants étaient suffisamment adultes, ils pouvaient regarder tout de même. Ensuite, on nous a amenés au dortoir. Lit en fer de couleur verte, et la boiserie aussi. Une femme de service m'a demandé de l'aider pour laver les plus petits, entre 4 et 10 ans. Il fallait les savonner, les passer sous la douche et les frotter, puis les faire sécher. Je me souviens qu'un petit garçon noir que j'ai lavé, qui bandait bien. Après, je me suis allé me coucher. J'avais toujours la tête vide. Tout à coup, j'ai eu des difficultés à respirer, comme de l'asthme. J'ai dû me dire que c'était dû aux médicaments, que j'allais peut-être être malade ou plus. Tant mieux. Je ne pensais plus à ce qui m'avait arrivé et le pourquoi de ce voyage. Une femme de service et une infirmière sont venues vers moi. L'infirmière m'a donné du sucre et un comprimé. Les jeunes qui étaient dans le dortoir, sont venus me voir.
Ils m'ont demandé si j'avais souvent cela et qu'il fallait bien en profiter pour faire soigner pendant que j'étais là. Ils étaient gentils. Je me souviens que mon lit était à gauche, que derrière moi se trouvaient la sortie et la douche. J'ai dû réussir à dormir, je ne me souviens plus. Après, je ne sais plus vraiment si j'ai passé une journée ou moins au lit. J'étais allongée et les jeunes étaient au dortoir. Je ne les voyais pas, mais je les entendais. Ils étaient au fond à droite. Un jeune de leur âge, qui semblait très efféminé, leur disait, peut-être était-il deux avec lui, qu'il aimait beaucoup Claude François, qu'il aimerait bien faire la chose avec lui. Les autres se sont mis à le draguer et à avoir des attouchements avec lui. Puis, je crois, un peu plus tard, deux femmes sont venues me voir. Il me dit de me lever et de m'habiller, qu'on allait me ramener à Lyon. J'avais pas envie d'aller à Lyon, de retrouver ma famille, le travail, la vie triste, monotone. J'allais redevenir l'abruti, et en plus de celui qui n'avait pas aimé, celui qui avait fait fauter, celui qu'il faut surveiller. J'aurais préféré, c'était de rester à Paris, mais surtout ici, là au moins, j'étais anonyme, au milieu de jeunes, comme moi. De jeunes paumés, déshérités, mais j'étais jeune, et je vivais, en étant avec eux, une vie de mon âge, avec des jeunes de mon âge. Et puis, j'étais encore très faible.
Je me suis levée, habillée.
L'on m'a mené à une femme forte dans les 50 ans, faisant mémé, cheveux gris, habillée d'un impair avec un parapluie. On m'a dit que c'était elle qui allait me mener à Lyon. Je n'ai rien dit. Nous sommes partis, pris un taxi pour la gare de Lyon. Il pleuvait toujours. Retrouver la gare, toujours triste et bondée. Monter dans un vieux train, bondé aussi.
Bon, et cette fois j'ai compris.
je disais adieu à Paris en me disant que plus jamais je reviendrai dans cette ville. Cette ville que je n'aimais plus, qui avait été le témoin de tant de mes humiliations, de malheurs. Je ne pensais plus au pourquoi j'étais venu, mais à mon amour de la personne. Tout ça, c'était fini, bien fini, du passé. Et mon avenir ne m'intéressait pas non plus. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Passion intérieure, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.